8h20, c'est parti avec vous. Souhila Hachmi, bonjour.
Bonjour.
L'invité de la rédaction reçoit ce matin Ahmed Nait El Houssin, commissaire principal, sous-directeur de la prévention routière à la DGSN. Madame, monsieur, Eid Moubarak.
Eid Moubarak à tous les Algériens. Monsieur Ahmed Nait El Houssin, bonjour.
Bonjour.
Alors, de plus en plus de morts sur nos routes, qualifiées même ces dernières années de terrorisme routier. L'accident de la Rouate la semaine dernière, exactement mardi dernier, qui a fait 17 morts, a beaucoup choqué. Que se passe-t-il exactement aujourd'hui sur nos routes? Peut-on considérer ou affirmer aujourd'hui que la quasi-majorité des conducteurs algériens sont des chauffards, ou alors le dispositif réglementaire existant actuellement est défaillant?
On ne peut pas affirmer que tous les chauffeurs algériens sont des chauffards. Il y a des insuffisances au niveau du dispositif réglementaire régissant la circulation et la sécurité routière. Ces insuffisances se situent principalement au niveau de l'accession au permis de conduire, c'est-à-dire les conditions d'obtention du permis de conduire. Il y a aussi la formation qui est dispensée au niveau des auto-écoles et également le système de sanctions actuel. Le système de sanctions actuel qui ne distingue pas entre les contrevenants primaires et les contrevenants multirécidivistes, à l'endroit desquels des mesures coercitives doivent être prises pour mettre fin à leur comportement qui met la vie des usagers en danger.
Alors, insuffisance du dispositif réglementaire, c'est ce que vous affirmez ce matin. Vous parlez de l'obtention du permis de conduire, la formation qui est défaillante. Vous parlez de contrevenants multirécidivistes. Face à cette situation, que faut-il exactement pour réduire le nombre de morts sur nos routes?
Tout d'abord, il est impératif de procéder à une révision du dispositif législatif et réglementaire régissant le domaine de la sécurité routière. Cet aspect a été discuté lors des assises des transports organisées par le ministère des Transports, et c'est une revendication aussi de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il y a des aspects qui doivent être immédiatement pris en charge, notamment les conditions d'accès à la conduite. Pour l'obtention du permis de conduire, actuellement, il y a un arrêté interministériel qui date des années 80 qui fixe les affections incompatibles avec la conduite. À la lecture de cet arrêté interministériel, on trouve que de nombreuses maladies, de nombreuses affections ne sont incompatibles avec le permis de conduire. Mais l'application de cet outil réglementaire n'est pas scrupuleusement observé.
Mais si je comprends bien vos propos, il faudrait donc, selon vous, revoir le code de la route qui est en vigueur, qui a été adopté par les pouvoirs publics en 2008 et appliqué en 2010. Il faut le revoir pour certaines de ces dispositions?
Évidemment, il y a des dispositions qui doivent être revues.
C'est ce que vous revendiquez à la DGSN?
C'est notre revendication. Je vais vous citer un exemple, c'est-à-dire l'implication des deux roues dans les accidents de la circulation routière. C'est un phénomène émergent, c'est-à-dire il est en train d'aggraver la sinistralité, notamment en milieu urbain. Pour le dispositif qui régit cette catégorie d'usagers, on trouve que les conducteurs de motocycles de moins de 50 cm3 ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'un permis de conduire. Les motocycles de moins de 125 cm3 ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription dans le fichier des cartes grises. Cet aspect complique énormément le travail des services de sécurité en matière de sécurité routière. Pour les moins de 50 cm3, ils n'ont aucune connaissance des règles de la circulation. Ils participent à la circulation routière sans connaître les moindres éléments, c'est-à-dire les moindres règles. Pour les moins de 125 cm3, notamment pour l'infraction qui est, c'est-à-dire donnée pour être à l'origine des accidents de la circulation, qui est l'excès de vitesse, on ne peut pas capter ces motocycles parce qu'ils ne disposent pas d'une plaque d'immatriculation.
Oui, mais justement, vous appelez aujourd'hui au niveau de la DGSN à revoir le code de la route qui est en vigueur, qui est appliqué depuis 2010, adopté par les pouvoirs publics en 2008. Mais certaines de ces dispositions du code de la route n'ont jamais été appliquées à ce jour. Par exemple, pour le mouchard, qui était obligatoire pour les conducteurs publics, pour les gros transporteurs. À ce jour, il n'a pas été appliqué. Revoir une disposition alors que certaines de ces dispositions ne sont pas appliquées, comment cela ?
Pour le chronotachygraphe, c'est-à-dire le mouchard.
J'ai préféré mouchard au lieu du chronotachygraphe.
Voilà. Le chronotachygraphe, il a été bon. C'est une disposition qui existe au niveau de la loi de 2001 régissant la circulation routière.
Mais il n'est pas encore en vigueur.
Il n'est pas encore en vigueur parce qu'il y a eu, la nécessité de promulguer des textes d'application à cette loi. Et aussi, il y a certaines difficultés techniques pour la mise en place de ce dispositif, notamment pour les camions qui sont déjà en circulation, c'est-à-dire de trouver un petit peu les mécanismes pour la généralisation de ce dispositif sur l'ensemble de la flotte déjà existante. Pour ce qui est des nouvelles immatriculations, c'est facile, c'est-à-dire promulguer une disposition qui oblige les concessionnaires à importer les véhicules avec équipés de chronotachygraphes. Mais la problématique se pose actuellement pour la flotte qui est déjà en circulation.
Mais l'accident, le dernier de la Roite, a beaucoup choqué. Ce sont deux transporteurs en comète qui se sont télescopés. C'est pas moins de 17 morts, sans parler des 30 blessés. Parmi les blessés, il y aura certainement d'autres morts. C'est quand même assez choquant.
Oui,
c'est la raison pour laquelle il est impératif de mettre en place ce chronotachygraphe ou le mouchard pour un peu contrôler le temps d'arrêt, l'excès de vitesse et tous ces indicateurs qui permettent de limiter les accidents aujourd'hui sur nos routes.
Oui. Bon, pour ce qui est de l'accident survenu le mardi sur la route de la Gouate, bon, ça a choqué, ça a interpellé l'opinion publique, etc. Mais il faut savoir que c'est-à-dire le bilan de la sinistralité dans son ensemble ne connaît pas une évolution par rapport aux années précédentes. C'est un phénomène préoccupant, c'est un phénomène tragique, mais qui ne connaît pas une recrudescence qui nécessite d'en parler, parce que au vu du bilan au niveau des zones urbaines, c'est-à-dire durant les 8 mois de l'année 2014, on a enregistré 12 198 accidents qui se sont soldés par 14 596 blessés et 591 tués. Comparativement, ça c'est pour les 8 mois de l'année 2014.
En zone urbaine, contrôlée par les services de la police nationale.
Comparativement à la même période de l'année écoulée, on enregistre une hausse de 4% pour les accidents, pour le nombre d'accidents, 5% pour celui des blessés et 11% pour celui des tués.
Est-ce que vous avez le global, c'est-à-dire le nombre d'accidents globalement à travers le territoire, y compris celui de la gendarmerie nationale ? Les deux à la fois.
Actuellement, on ne dispose pas des statistiques du fait que il faut savoir que le système de collecte des statistiques au niveau de la Sûreté nationale, il est séparé par rapport à celui de la gendarmerie nationale.
Mais on parle déjà de la barre des 3000 qui est dépassée aujourd'hui selon le global, monsieur Nathal Hussein.
Oui, c'est le centre national pour éclairer un petit peu les auditeurs. C'est le centre national qui collationne les statistiques des accidents de la circulation routière.
Oui, mais justement, vous avez parlé tout à l'heure d'un aspect qui est important. Vous parlez, il n'y a pas eu recrudescence comparativement aux autres années. Mais si on a atteint aujourd'hui les plus de 4000 morts en Algérie, l'Algérie se trouve en haut du tableau, deuxième au rang mondial en matière d'accidents de la circulation. Est-ce la conséquence d'un laisser-aller, une sorte de passivité ? On n'a pas suffisamment réagi, réprimé les accidents de la circulation.
Non, pour cette classification, c'est un peu discutable parce qu'il n'y a jamais eu une classification établie par des instances internationales. La première classification qui pourra se faire, elle va se faire dans quelques mois. C'est une enquête qui est menée par l'Organisation mondiale de la santé qui va procéder à une classification des pays par rapport à leur progrès en matière de sécurité routière.
Alors justement, Monsieur Ahmed Aït El Houssin, beaucoup de questions. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites en milieu urbain, il y a eu progression, mais progression relative. Mais 4% de progression, c'est des morts supplémentaires et c'est énorme.
Oui, c'est des morts supplémentaires qu'on déplore. C'est... Mais il faut savoir aussi que cette progression est intimement liée aussi à l'évolution du parc automobile au niveau des zones urbaines. On enregistre annuellement 200 000 immatriculations, une moyenne de 200 000 immatriculations par an. Si on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire aux années 2009-2010, on comptabilisait au niveau des zones urbaines une moyenne de 1100 tués. À partir de la promulgation de la loi 09 avec les mesures coercitives de retrait immédiat du permis de conduire, on est passé sous la barre des 800 tués par an. Maintenant, il y a une moyenne de 900 tués. C'est énorme au milieu urbain de 900 tués par an, mais le phénomène est maintenu dans des proportions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une explosion de la sinistralité. En dépit du fait de la croissance du parc automobile, il faut savoir aussi que toute, c'est-à-dire la...
Mais un mort, c'est un mort de trop.
Oui, un mort, c'est un mort de trop, mais tout est relatif par rapport aux aspects que je viens de citer, c'est-à-dire la croissance du parc automobile, c'est-à-dire les déplacements qui s'effectuent majoritairement, que ce soit le transport de voyageurs, que ce soit le transport des marchés, marchandises, etc., il se fait essentiellement par route. Il y a eu aussi l'étendue du réseau routier qui insiste au déplacement par voie routière. Tout ça contribue dans d'autres pays à une aggravation de la sinistralité, chose qui n'est pas observée chez nous.
Alors, vous avez déployé un nouveau dispositif, la DGSN, des brigades mobiles avec des véhicules banalisés. Vous pensez qu'avec ce dispositif, vous allez réussir à réduire le nombre d'accidents de la circulation au niveau en milieu urbain ?
Écoutez, la brigade de sécurité routière, tout d'abord, on va expliquer un petit peu le dispositif. C'est des véhicules banalisés avec des personnels qui sont astreints au port de l'uniforme. C'est un dispositif expérimental au niveau...
C'est pas totalement banalisé, hein.
Pas totalement banalisé puisque les fonctionnaires à l'intérieur sont astreints au port de l'uniforme. C'est un dispositif de surveillance et de traque des chauffards avec comme priorité les infractions génératrices d'accidents commises en circulation, c'est-à-dire les manœuvres dangereuses, les dépassements dangereux, le non-respect des distances de sécurité, etc. Ce dispositif apporte aussi un effet dissuasif puisque les chauffards et les contrevenants ne s'aperçoivent pas de la présence policière et ils vont se sentir continuellement surveillés et interceptés en cas de commission d'infraction.
Mais est-ce que vous pensez que ça va réduire le nombre d'accidents de la circulation ?
C'est un dispositif qui apporte un plus en matière de sécurité routière. Ça va réduire, c'est-à-dire on va procéder à une évaluation du dispositif à l'issue de 3 mois d'exercice.
Donc en termes clairs, vous dites oui, mais pourquoi ne pas l'avoir déployé plus tôt alors ? Pourquoi ne pas l'avoir déployé plus tôt, puisqu'il va permettre de réduire les accidents, c'est ce que vous affirmez ?
Bon, les dispositifs sont adaptés en fonction de l'analyse des bilans. C'est-à-dire, on a constaté que les infractions qui sont commises en circulation représentent un fort taux de représentativité au niveau des bilans statistiques. Et on adapte nos dispositifs par rapport à cette analyse des bilans.
Alors justement, moi je voudrais vous reprendre sur une déclaration que vous avez faite récemment. Vous déplorez le fait qu'il n'y ait pas de fichier national de permis de conduire qui vous permettra une meilleure visibilité et plus d'action. Pire encore, il y a certains conducteurs qui disposent même de 3 permis de conduire. C'est quand même assez choquant.
Oui, c'est choquant. En l'absence d'un fichier national de permis de conduire, c'est-à-dire...
C'est-à-dire vous lui enlevez un, il a l'autre.
Le contrevenant peut se présenter, oui, il fait une déclaration de perte ou de vol de ses documents, il peut se faire délivrer un autre permis de conduire. Mais les services de police ne disposent pas d'un outil pour justement identifier ces contrevenants.
Il faut mettre en place ce fichier national des permis de conduire impératif.
Il est impératif de le mettre en place. Le fichier national des permis de conduire est, c'est-à-dire une condition sine qua non pour la mise en place aussi du permis à points.
Mais le permis à points,
oui.
Pourquoi n'est pas encore en vigueur ? Que se passe-t-il ?
Bon, le permis à points.
Pourtant, on l'a annoncé, même avec vous, on l'a annoncé à plusieurs reprises.
Bon, le permis à points, bon, c'est un outil qui relève des attributions du ministère des Transports. On avait conçu ce permis à points sous forme d'un document administratif qui vient s'ajouter aux autres documents, c'est-à-dire il a apporté une portée pédagogique en termes d'imposition, d'une formation pour les contrevenants, etc. Mais, c'est-à-dire pour arriver au système du permis à points, il faut impérativement disposer d'un fichier de permis de conduire et d'un fichier de contravention. Parce que tout le système de sanction du code de la route, il est basé sur le système à points. C'est-à-dire, lorsqu'on commet une infraction, il y a une amende forfaitaire, il y a aussi un retranchement de points jusqu'à invalidation du permis de conduire.
Alors justement, les amendes forfaitaires, et le nombre de retraits de permis de conduire, est-ce qu'ils sont importants aujourd'hui ?
Bon, pour les 8 mois de l'année 2014, on a procédé à un retrait de 100 149 permis de conduire. On a procédé à l'établissement de 462 409 contraventions. On a procédé à 33 666 immobilisations de véhicules et 13 342 mises en fourrière.
Temporaire, des immobilisations.
Des immobilisations temporaires jusqu'à cessation de l'infraction. Et au-delà de 48 heures, ça devient des mises en fourrière et des cas où la mise en fourrière est prononcée directement.
Alors justement, tout à l'heure, vous avez déclaré que dans le dispositif actuel, qu'il faudrait impérativement, selon la DGSN révisée, il n'y a pas de différence entre justement un contrevenant primaire et un contrevenant multirécidiviste. Pour les multirécidivistes, faut-il aller vers un retrait définitif du permis de conduire ?
Oui, justement, c'est pour cette raison d'ailleurs que la Sûreté nationale a toujours milité pour l'instauration du permis à points, puisque
Est-ce qu'il va
régler le problème parce que justement c'est lui qui permet de détecter les contrevenants multirécidivistes.
Il faut leur retirer définitivement le permis.
Non, c'est-à-dire quand il arrive à un retranchement de points, c'est-à-dire à l'épuisement de son capital points, on procède à l'invalidation du permis de conduire. Il doit aller le repasser une autre fois son permis de conduire.
Oui, mais justement vous parlez un peu du nombre de retraits de permis de conduire. Vous avez donné le chiffre de 100 000 pratiquement qui ont été retirés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que aussi parallèlement il y a certaines pratiques qui font on nous retire un permis de là et on le récupère d'un autre côté rapidement parce qu'on connaît un policier au niveau de telle structure ou telle structure.
Non, mais c'est bon, on va pas.
C'est des pratiques courantes. De toute façon, on va pas se mentir.
Il faut pas généraliser. Il faut pas systématiser aussi. C'est des pratiques.
Mais ça arrive. Bon,
ça arrive. Mais justement,
il est certain que vous me rendrez pas mon permis.
Non,
mais
notre proposition, c'est d'aller vers un système automatisé des sanctions. C'est-à-dire
plus d'intervention.
Il y a un projet qui est en cours au niveau du ministère des Transports. Pour le permis biométrique. Le permis biométrique, c'est aller à l'image, c'est-à-dire du passeport, avec une puce qui contient toutes les informations, etc. Et on procède directement, c'est-à-dire dans des terminaux à embarquer au niveau des véhicules, etc., à la constatation de l'infraction, etc. C'est automatisé et on aura ainsi réduit toute tentative de récupération
du permis de conduire, voilà, par une tierce personne que l'on connaît au niveau de telle structure, voilà, urbaine ou telle.
Non, mais il ne faut surtout pas généraliser puisque c'est-à-dire le bilan des retraits de permis atteste quand même qu'il y a une activité intense en matière de répression des contrevenants.
Mais est-ce que vous pensez qu'avec le dispositif qu'il va falloir réviser, réactualiser, réadapter on aura moins d'accidents de la circulation. En juillet dernier, selon les statistiques officielles, y compris ceux de la DGSN, nous étions à autour de 3300 morts. Nous allons clôturer l'année, il est clair, avec plus de 4000 morts. C'est en 2010, le nombre a été réduit parce qu'on a appliqué le code de la route dans toute sa rigueur. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, en le réadaptant, en l'appliquant dans toute sa rigueur, il y aura moins d'accidents?
Bon, écoutez, la lutte contre le phénomène de l'insécurité routière est un tout. Il faut qu'elle s'intègre dans le cadre d'une politique publique de sécurité. Il y a des efforts qui sont fournis par l'ensemble des partenaires.
Mais il faut tout revoir aussi. Stationnement anarchique parce qu'il n'y a pas de parking, il faut tout revoir.
Il y a une insuffisance en matière de coordination des efforts de l'ensemble des secteurs. Il y a un centre national de prévention et de sécurité routière qui est chargé de définir et de mettre en œuvre cette politique de sécurité routière. Mais dont le statut juridique, c'est-à-dire c'est un EPA, ne dispose pas des moyens et des compétences requises pour justement mener cette politique nationale en matière de prévention de sécurité.
Alors très rapidement sur cette question, vous avez par exemple un cortège nuptial qui slalome devant les policiers, il arrête la circulation pour les laisser passer. C'est des pratiques qui devraient disparaître également. Appliquer la loi dans toute sa rigueur.
Des instructions ont été données pour l'application de la loi dans toute sa rigueur et c'est des contraventions qu'on constate continuellement.
Monsieur Ahmed Nait El-Houssine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, Sahaïd Koum à tous les Algériens, Sahaïd également. À bientôt.
Sahaïd Koum, merci.